Chapitre 23. Avril, jusqu'ici, a été si chaud que nous avons trouvé Aumont couvert de feuilles. Les fleurs s'épanouissent hardiment au bord des chemins, sans souci des gelées et des surprises. Lasses de dormir et de germer mystérieusement, elles répondent par milliers à l'appel du soleil. Aumont me paraît moins laid que l'année dernière et moins froid, m'a dit Madame d'Arlancey. Moins froid, je le comprends, répondis-je en regardant le feu d'enfer que ma tante entretient soigneusement dans le salon et dans sa chambre. Elle refuse énergiquement de traverser seule avec moi la cour de la ferme, mais elle consent à s'asseoir dans le verger maintenant défleuri, et je lui affirme que, si elle voyait l'aspect neigeux de mes pommiers lors de leur floraison, elle partagerait mes enthousiasmes. « J'ai reçu une lettre d'André, me dit-elle l'autre jour, pendant qu'elle se promenait courageusement dans une prairie où coule un charmant ruisseau. Il arrive demain. Il peut avancer son arrivée ? Oui, il est impatient, je le sens dans sa lettre. « Pourquoi cette impatience subite ? Murmurai-je. « Peut-être parce qu'il ne te voit plus. Il s'expliquera lui-même, ma chère fille. » Je passai une partie de la nuit sans dormir. Avril allait donc voir s'accomplir le sort de la dernière du Aumont. En robe de chambre, en pantoufles, un flambeau à la main, je montai doucement, comme une coupable, dans l'atelier de mon père. Les rideaux étaient relevés et les rayons de la lune, qui éclairaient l'appartement, s'harmonisaient avec la douceur des souvenirs que je venais réveiller à minuit. Dans cette blanche lumière, mes ombres, mes chères ombres me disaient que bientôt je connaîtrais les tendresses qui parfumaient encore à mes yeux la maison familiale. Elles me disaient que le lien, m'attachant à tous ceux qui ont vécu depuis 1627 dans la Châtellenie, allait, par ma main, se renouer avec la vie générale. Elles me disaient, ces ombres chéries, que j'allais me rapprocher d'elles en ajoutant à la chaîne un nouvel anneau. Je rêvais près d'une heure au milieu de mes doux fantômes, puis, regagnant ma chambre, je m'endormis. André, soucieux, un peu défait, arriva dès le matin, après avoir voyagé toute la nuit. Sa résolution était prise, mais il doutait, il s'inquiétait, mon pauvre tuteur. La journée se passa à visiter la propriété et à disserter sur le triste état des bâtiments à réparer. Le soir, nous prîmes ensemble des décisions. Il me soumettait ses observations avec une condescendance admirable, mais il y avait entre nous de lourds silences pendant lesquels il m'observait furtivement. Le lendemain, dès l'aube, Madame Père au Campillon doit être ravie de cette rencontre. « Pas plus que moi, » dit-il. Cette phrase prêtait à l'équivoque. Mademoiselle Alice lui donna une interprétation polie. « On vous réunira, » fit-elle, prophétisant sans le savoir. « Nous voisinons beaucoup, Monsieur Perrault, et les occasions de voir les gens qu'on aime sont fréquentes. Venez demain prendre le thé avec moi. C'est mon jour. » Madame Vieux-Girard, se trouvant fort enrhumée, avait prié Sylvain et Marie-Louise de sursoir d'une huitaine à l'annonce de leurs fiançailles. Elle les avait embrassés tous deux fort affectueusement, puis elle avait appelé Frumencette. « Ma bonne, lui avait-elle dit, faites le nécessaire pour ces deux enfants. Je vous donne carte blanche. Pour moi, je ne demande qu'une chose, c'est qu'on m'épargne les émotions. » Très embarrassés dans le rôle de fiancés incognito, Sylvain et Marie-Louise se rencontrèrent donc chez Mademoiselle Alice et pendant une heure firent des efforts inouïs pour avoir l'air naturel. Paulette, charitablement, détournait d'eux l'attention, créait des incidents, couvrait leur bévue du manteau de son bavardage. La scène était fort animée. Ouverte à deux battants, la salle à manger agrandissait le salon de ses trois fenêtres, de ses claires-boiseries, de son lointain dressoir et de sa table à thé chargée d'argenterie, où le soleil d'hiver piquait des étincelles. Les petites nappes de lin soyeux semblaient des taches de neige, ci et là, sur les guéridons, et les précieuses petites tasses de Chine s'épanouissaient comme des fleurs entre les mains des convives. Un gai tintement de cuillers accompagnait le bruit léger des voix, le froufrou de robes et la chanson gloussante du samovar. derrière les feuilles, déterminée à profiter de notre délicieuse solitude pour s'expliquer. Se pourrait-il, dis-je, que vous ayez la pensée subversive d'offrir des sacrifices sur l'autel de la flânerie ? Pourquoi pas ? L'homme est changeant, Jacqueline, dit-il gaiement. Il s'instruit tous les jours et se découvre des goûts nouveaux. À certains tournants de sa vie, il voit d'autres horizons, il les admire, il les aime. Lui aussi, sous les grands peupliers, me parlait d'un tournant. Tournant béni, derrière lequel, je le savais bien, il avait découvert Jacqueline Duhaumont. En vérité, dis-je, affectant la stupeur, je n'aurais jamais cru qu'un cerveau aussi bien équilibré pût varier comme un étourneau. Non comme un étourneau, mais comme un homme sensé, observateur, loyal. Vous me comprenez, Jacqueline ? Oui, vous parlez de certaines idées qui, je crois, se sont légèrement modifiées. Légèrement modifiées, s'écria-t-il. Dites qu'elles se sont entièrement transformées. Transformation bien prompte, observai-je avec incrédulité. Il suffit d'une heure, d'un instant, d'une seconde, me dit-il avec chaleur. Il suffit d'aimer, il suffit encore. Il hésita. De souffrir d'une certaine façon, insinuai-je. Également, j'ai souffert dans mes affections plus encore que dans mon amour-propre et j'ai profité de l'expérience. Sans doute, cette expérience a préparé la conversion, mais elle ne l'a pas achevée. « Eh bien, André, répondis-je tranquillement, puisque vous ne considérez plus la femme comme un enfant, un être inférieur, presque un jouet, je félicite la femme que vous épouserez un jour. »« Un jouet, un être inférieur, à quoi pensez-vous, Jacqueline ? Ai-je jamais exprimé semblables aberrations ?»« Oui, et plus d'une fois. En vous écoutant, je me disais ce que je me dis encore, si j'acceptais un jour dans ma maison... Le rôle subalterne que l'orgueil d'André assigne à la femme, je me mépriserai moi-même. Il pâlit, marcha rapidement, revint près de moi, me regarda avec son ancienne mine de tuteur, puis s'éloigna si soudainement que je demeurai interdite. Une petite brise s'élevait, et mes peupliers modulaient, plus harmonieusement que jamais, leur chant habituel. « Chantez, chantez, leur dis-je, vous célébrez mon bonheur. » Lorsqu'en automne, vos feuilles d'or frissonnaient avant de tomber, elles parlaient bien, dans ce dernier frisson, des joies intimes qui, au renouveau de votre propre vie, allaient devenir miennes. Et j'aurais voulu que les premières paroles d'amour de celui que j'aimais vinssent se marier pour toujours aux voix musicales qui avaient tant de fois bercé mon rêve. Je rentrai chez moi et montai dans l'atelier. Chaque grain de poussière s'identifiait avec un désir de mon cœur, avec une clarté de mon esprit. De menus objets de travail féminin étaient encore sur la table, à côté des fins outils qui servaient à mon père. Je les voyais tous les deux s'appuyant l'un sur l'autre. Ils souriaient devant les rameaux qui allaient reverdir et ressusciter leur propre joie. « Quand donc parlera-t-il » dis-je tout haut. « Jacqueline !» Entrée si doucement que ma rêverie n'avait pas été troublée, André, l'air ému, la voix altérée, me tendait les deux mains. « Jacqueline, comment puis-je parler ? Lorsque je fais un pas, vous m'obligez à reculer. Je vous aime, et quand le mot très doux tremble sur mes lèvres, vous me forcez à douter des paroles de Mademoiselle de la Flage. Ah ! Dis-je avec conviction. On peut bien aimer un ingénieur et lui donner les étrivières. Aimer un ingénieur ? Il m'attira à lui d'un geste passionné et autoritaire. Enfin, vous avez prononcé le mot dont dépendait ma vie entière, la joie de mon foyer. Il n'y a donc plus de fossé entre nous. Nous nous comprenons, nous sommes amis, dis-je avec ravissement. Amis, amants, nous serons tous là, Jacqueline. Nos deux destinées sont désormais étroitement unies. Comme celles qui ont passé par ici, dis-je avec émotion, comme celles de mes ombres. Comme celles de vos ombres, oui, je vous comprends maintenant, vous qui avez accompli la transformation dont nous parlions il y a 2 heures. Et j'allais perdre par ma faute ce cœur et cet esprit charmant. Vous êtes de ces femmes qu'on aime chaque jour un peu plus à mesure qu'on les pénètre davantage. Quel temps vous avez mis à me découvrir ! Mon amour n'en est que plus fort, me dit-il en m'embrassant tendrement. André, il y a longtemps, moi, que je vous ai jugé. Et aimé ? Murmura-t-il en se penchant vers moi. Oui, aimé également. En vérité, André, je crois que mon amour date du moment où, la voiture versée, vous entouriez ma tante d'une tendresse si grande. Cette tendresse déterminait complètement mes aspirations qui, depuis lors, se sont confondues avec vous. Jacqueline, ma chérie, je me rappelle que vous pleuriez. Vous me reprochiez d'avoir peur et je pleurais parce que mon cœur venait d'entrer profondément dans le vrai sens de la vie. Et moi, stupide, je ne comprenais rien, dit-il en me serrant dans ses bras. Adieu aux pensées inquiètes, aux doutes amers. Mon rêve n'était pas devenu le délicat, l'imperceptible rayonnement d'une chose heureuse, mais bien le chaud rayon d'un beau soleil.